journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Se confiner, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur. En tout cas, un tiers d'infarctus en moins à l'hôpital pendant le confinement. L'absence de stress et de pollution pourrait faire partie de l'explication. Péril imminent en Grande-Bretagne, l'épidémie se répand beaucoup trop vite. Les bars et les restaurants vont devoir fermer partout à 22h. Ils marchent, mais pas dans la même direction. LREM se divise au sein du parti. Et sur la question des néonicotinoïdes, vous allez l'entendre. À droite, qui pour incarner le changement en 2022? La question intéressera forcément l'invité du grand entretien,
Nicolas. Oui, il s'agit de la maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati au micro d'Inter dans une grosse vingtaine de minutes. 01 45 24 7000.
Et dans ce journal, la grande crainte du démantèlement chez Suez, nouvelle journée de grève contre l'offre de Veolia, un youtubeur condamné pour harcèlement de meute sur les réseaux sociaux et l'œuvre de Picasso vue à travers le prisme de la musique du début du 20e siècle, expo originale à la Philharmonie de Paris.
France Inter.
Où sont les malades? Question des cardiologues à l'hôpital pendant le confinement. Une étude a donc été lancée dans toute la France. Ses conclusions publiées dans le Lancet qui nous apprend que les hospitalisations pour crise cardiaque ont bien baissé de 30% à ce moment-là, sans effet rebond dans les semaines qui ont suivi. Ce qui veut dire, Daniel Messager, que le confinement a eu un réel effet bénéfique sur le cœur des Français.
Les médecins ont regardé le nombre d'hospitalisations pour crise cardiaque pendant les 4 semaines qui ont précédé la date du confinement et pendant les 4 premières semaines de ce confinement. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est une baisse notable puisqu'elle est de 30% pendant cette période du 17 mars au 12 avril. La première hypothèse, c'est la peur de se rendre à l'hôpital pendant cette période où la Covid avait pris toute la place. Mais ce n'est pas la seule. Le professeur Nicolas Danchin, cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou, coordinateur de cette étude.
Les autres hypothèses, c'est qu'il y a eu réellement une baisse de la survenue des infarctus du myocarde, pas seulement des hospitalisations pour infarctus, parce que les gens étaient confinés chez eux, donc ils faisaient plus d'efforts physiques violents, il y avait peut-être moins de stress professionnel pour certaines personnes, et puis il y avait aussi, et ça a été constaté très très rapidement après le début du confinement, une diminution de la pollution, et on sait que la pollution de l'air peut déclencher des infarctus du myocarde.
Même à Marseille ou Bordeaux, où les services des hôpitaux étaient loin d'être saturés par les malades de la Covid et la peur de s'y rendre bien moindre qu'en région parisienne, les chercheurs ont été surpris de constater la même baisse entre 25 et 35% d'hospitalisation pour infarctus.
Daniel Messager, voici une autre conséquence de la crise, un effet collatéral, cette fois sur les transfusions. Trop peu de collectes et trop peu de dons de sang. Le stock de globules rouges en France est au plus bas depuis 10 ans, s'alarme l'établissement français du sang. Un test négatif pour un week-end à Rome, obligatoire d'ici quelques jours pour tous les Français des régions en tension qui se rendront en Italie.
Et si votre programme c'est Londres, n'imaginez pas passer la nuit au pub.
Fermeture à 22h à partir de jeudi dans tout le pays et c'est valable aussi pour les restaurants. Boris Johnson l'annoncera officiellement aujourd'hui, alors que le nombre de contaminations double chaque semaine au Royaume-Uni. Correspondance à Londres, signé Richard Place.
Un nouveau coup dévastateur, c'est ainsi que le représentant de l'industrie de la nuit qualifie cette décision et il met en garde contre la recrudescence de fêtes sauvages chez des particuliers. À partir de jeudi soir et jusqu'à nouvel ordre, les pubs, les restaurants, les bars devront fermer leurs portes à 22h au plus tard et interdiction de servir des clients debout. Tout le monde doit être installé à table. Cette mesure est déjà appliquée dans certaines villes du nord du pays, là où les chiffres de contamination sont particulièrement élevés. Si elle n'est plus totalement exclue, la perspective d'un nouveau confinement général semble pour l'heure repoussée. Boris Johnson veut garder les écoles ouvertes et maintenir au maximum l'activité économique, mais il est pressé d'agir par ses conseillers médicaux. Alors il va enchaîner aujourd'hui un conseil des ministres, une réunion de crise avec notamment les leaders écossais, gallois et nord-irlandais, une déclaration au Parlement et une allocution télévisée diffusée à 20h. Londres, Richard Place, France Inter.
Aux États-Unis, la barre des 200 000 morts sera franchie aujourd'hui. Le virus là-bas est 4 fois plus mortel qu'en Europe, mais Donald Trump se félicite. Nous avons fait du bon boulot. La méthode Quay qui ne marche pas sur les marchés. Wall Street a perdu presque 2% hier. Les baisses sont encore plus fortes en Europe. Paris, Francfort et Londres perdent entre 3,5 et 4,5%. Le monde de la finance redoute un nouveau confinement généralisé. Autre conséquence chez nous d'une situation dont on ne voit pas le le bout. Les voyages scolaires, c'est râpé pour cette année. Les élèves n'apprendront pas la différence entre feuillus et épicéas en classe de neige. Le secteur du tourisme jeunesse fait face à des annulations sans précédent. Philippe Lefebvre.
Certains professionnels évoquent un tsunami en parlant de ces annulations. C'est le cas de Violaine Villette qui préside Savoie Mont-Blanc Junior, une association qui regroupe 250 sites d'hébergement pour les enfants dans les Alpes où les annulations sont déjà très nombreuses.
Entre 30 et 40% d'annulations sur les groupes qui étaient positionnés pour l'hiver 2021. Et si nous ne travaillons pas en 2021, nous ne serons plus là en 2022 pour accueillir les classes et les séjours et les colonies de vacances. C'est assez dramatique parce qu'en fait, on ne peut pas survivre sans travailler, c'est juste pas possible.
Et le manque à gagner est estimé à 32 millions d'euros par mois pour les seuls départements de Savoie et de Haute-Savoie. Et d'ores et déjà, certains professionnels pointent du doigt le manque de coordination des différents services de l'État. C'est le cas de Charlotte Bécard de Roubaix, directrice générale de VivaLangue.
La foire aux questions du ministère de l'Éducation nationale a été mise à jour avec simplement une petite phrase qui dit que les sorties scolaires vont désormais être autorisées dans le respect du protocole sanitaire. Mais par ailleurs, on a déjà des clients qui nous envoient des courriers officiels de leur rectorat leur disant qu'il y aura interdiction de voyager avant le mois de mars.
Et selon ces professionnels, les écoles ne sont pas les seules à annuler des voyages. Les comités d'entreprise seraient également plutôt réticents à l'idée de faire partir cet hiver des enfants à la montagne.
Philippe Lefebvre.
Il est 8h07, Florence. Cette fois, ça sent vraiment la division à La République en marche.
Bureau exécutif houleux hier soir après la démission du numéro 2 du parti Pierre Person. Sacha Houlier, Aurore Berger claquent la porte de la direction en désaccord avec leur patron Stanislas Guérini. Et là aussi, les marcheurs n'avancent pas dans le même sens. On va s'en apercevoir à l'Assemblée lors de l'examen en commission du projet de loi sur les néonicotinoïdes à partir d'aujourd'hui. 4 ans après leur interdiction, le gouvernement veut les réautoriser dans les cultures de betteraves à sucre qui n'arrivent pas à venir à bout du puceron, vecteur de la jaunisse de la betterave. On leur accorderait donc une dérogation pour quelques années. Tant pis pour les abeilles, Karine Bécard, et tant pis pour l'unité de la majorité.
Se retrouver encore accusé de ne rien faire pour l'environnement. Une partie des députés de La République En Marche juge le texte du gouvernement très embarrassant. Non seulement ils vont devoir voter le retour des néonicotinoïdes, mais en plus, sans savoir pour combien de temps. Laurence Maillard-Méhaignery se sent coincée. Elle est la nouvelle présidente de la commission développement durable à l'Assemblée.
Aujourd'hui, personne ne sait nous dire si c'est 2 ans, 3 ans nécessaires pour trouver des alternatives. Nous, on veut des réponses par rapport à ça. On veut des engagements de la filière très fermes. Et de toute façon, une dérogation qui ne peut s'inscrire que dans le temps. Mais sauf que personne ne sait nous dire si la recherche aboutira dans 3 ans.
Maintenant, il y a aussi une petite partie de la majorité qui soutient le gouvernement et qui défend le modèle agricole, comme le député champenois Grégory Besson-Moreau, très actif sur le sujet.
On a besoin d'expliquer, on a besoin de se déplacer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on s'est déplacé avec nombre de parlementaires dans un champ pour constater et voir ce qu'est la jaunisse. La betterave, elle est 5 fois plus petite. Elle est mangée par des pucerons, elle est friable. On a besoin aujourd'hui d'emmener les parlementaires sur le terrain pour constater ce qu'est une maladie.
Est-ce que cela suffira à convaincre l'aile gauche et écologiste de la majorité ? Ce texte sur les néonicotinoïdes est en cette rentrée le premier sujet inflammable pour la Macronie à l'Assemblée.
Et de leur côté, les betteraviers proposent de lancer un grand programme de recherche pour trouver une alternative aux pesticides chimiques. Trouver une alternative et lancer une contre-expertise, le gouvernement à la manœuvre pour éviter la fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune. C'est une seule solution pour la direction qui s'est tout de même dit prête hier à réfléchir à l'avenir du site. Eux aussi voudraient bien échapper à leur destin. Les salariés de Suez, totalement hostiles au rapprochement engagé par Veolia, son offre de rachat partiel court jusqu'au 30 septembre avant un rachat global. Les syndicats de Suez appellent donc les 90 000 salariés du groupe dans le monde, 30 000 en France, à la grève aujourd'hui. Ils se rendront à Matignon ce matin dans l'espoir de rencontrer Jean Castex. Ce qu'ils redoutent, Delphine Simon, c'est un démantèlement de Suez.
Si Veolia mène son offre à terme, les syndicats de Suez préviennent, il faut s'attendre à ce que les 3/4 des activités du groupe en France soient cédées à d'autres. L'inquiétude monte sur le sort de 29 000 salariés, explique Franck Reynold von Essen, le secrétaire CGT du comité d'entreprise européen de Suez.
Choisir notre concurrent, c'est le choix du pire. et ça va être une boucherie sociale. On est en doublon partout. Ils pourront pas garder des activités pour des questions de concurrence. Tout le monde a hyper. Hein. Donc imaginez, ça pique un peu entre les omoplates, oui.
4000 emplois risquent d'être supprimés en cas de rachat, selon les calculs de la CFDT. Son délégué Jérémy Chauveau s'insurge. On ne peut pas laisser à deux groupes, dit-il, le soin de décider en 3 semaines de l'avenir d'un secteur aussi crucial que l'eau et le traitement des déchets.
Les syndicats de Suez, en fait, n'envisagent pas que le couperet tombera de manière définitive le 30 septembre. C'est pour ça qu'on interpelle le gouvernement qui a une carte à jouer en étant le principal actionnaire d'Engie et lui rappeler également ses obligations vis-à-vis des salariés de Suez.
Suez doit rester indépendant, plaide son ancien président Gérard Mestrallet, mais pour le moment, le groupe n'a pas été en mesure de proposer une alternative.
Trop de pannes de manettes, l'UFC Que Choisir porte plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée de sa console Switch après plusieurs centaines de signalements de consommateurs. En attendant, l'association les invite à contacter le service après-vente de Nintendo pour obtenir la réparation gratuite de leurs manettes défectueuses. Et du monde du jeu à celui des youtubeurs, il n'y a qu'un pas. Ainsi, cet amateur de musculation qui vide sa passion en faisant des vidéos, il se fait appeler Marvel Fitness, a été condamné hier à 2 ans de prison, dont un ferme à Versailles, conduite en détention à la sortie de l'audience pour harcèlement de meute. Nouveau délit du code pénal, cet homme, Ariane Grissel, avait incité ses dizaines de milliers d'abonnés à fondre numériquement sur d'autres internautes.
Les parties civiles décrivent toujours le même scénario, une critique négative sous une vidéo de Marvel Fitness, et c'est l'étincelle, ce que l'on appelle un raid numérique. Des centaines de messages écrits et filmés, des menaces, des insultes, des appels au suicide, plus de 5000 pièces versées au dossier, certaines attribuées au youtubeur, d'autres à ses abonnés. Le tout dans le milieu des influenceurs, ces internautes payés par des marques qu'ils citent sur leurs réseaux sociaux. Aline Dessine est illustratrice, elle fait partie des plaignants. La jeune femme dit souffrir d'un stress post-traumatique.
Il m'accuse de mentir sur mes diplômes, d'arnaquer mes clients, de m'être échappé d'un asile psychiatrique. Il a mené aussi des raids contre un de mes partenaires commerciaux en disant que s'ils continuaient de travailler avec moi, ils allaient boycotter la marque. Mon contrat n'a pas été renouvelé. J'ai pris tellement l'habitude que les messages soient négatifs que je les ouvre plus.
L'avocat de la défense invoque de son côté la liberté d'expression, parle de satire. Son client, lui, garde le silence. Il a beau être jugé pour harcèlement de meute, il est seul sur le banc des prévenus. Un avocat de partie civile évoque sa tribu souterraine. Une de ses consoeurs explique qu'il aurait fallu des années de procédure pour faire juger tous les harceleurs. Des internautes absents à l'audience, mais toujours bien présents sur les réseaux sociaux. Les plaignants ont continué à recevoir des messages d'insultes pendant le procès.
Des produits et du matériel douteux saisis dans des valises. À peine le Tour de France terminé, voici revenu le soupçon de dopage. Enquête ouverte à Marseille sur l'équipe française Arkea du cycliste colombien Quintana. On en a parlé dans le journal de 7h30. Un médecin et un kiné sont en garde à vue. Enfin, comment organiser une exposition Picasso sans refaire toujours la même chose? Trouver une idée originale après 100 ans d'expo? La Philharmonie de Paris l'a trouvé, cette idée, avec les musiques de Picasso. Un nouveau prisme pour redécouvrir l'œuvre du maître Stéphane Capron.
Picasso n'était pas vraiment un mélomane. Il n'a jamais peint en musique dans ses différents ateliers, mais il a toujours été fasciné par les musiciens, notamment ceux qu'il croise dès son plus jeune âge en Espagne, dans les quartiers gitans. C'est le point de départ de l'exposition conçue par Cécile Godefroy.
Malaga, à cette époque, était une ville baignée de musique. La musique s'écoutait partout, dans les foyers, mais aussi dans les rues, à l'occasion de fêtes, les Verdiales. Et puis, bien sûr, il y a la musique de corrida et la musique gitane, deux types de musique auxquels l'initie son père, José Ruiz Blasco, peintre, mais également grand passionné de musique flamenca.
Durant sa période cubiste, Picasso peint des instruments, des mandolines, des guitares, des violons. Il utilise des partitions dans ses collages. Mais l'exposition permet aussi de découvrir un Picasso moins connu, celui qui a collaboré dans les années 20 au Ballet Russe, dirigé par Serge de Diaghilev. Il participe à la création de Parade, un ballet devenu mythique sur une musique d'Eric Satie, un livret de Jean Cocteau. Picasso dessine les décors et les costumes qui sont exposés à la Philharmonie.
Picasso. Picasso, Satie Cocteau, c'est le comble du chic. Et sachez que pour cette exposition, un double CD est édité par Harmonia Mundi, dans lequel on retrouve évidemment tous ces morceaux de Satie, les musiques de Picasso à la Philharmonie de Paris.
Merci Florence Paracuelos.